Bonjour et bienvenue à tous dans Heineck Misanek. Bonjour Arnaud.
Bonjour Clément, bonjour à tous.
Alors dans ce second numéro, nous parlerons du processus de paix qui a été initié entre Israéliens et Palestiniens, lancé le 2 septembre à Washington. Et nous tenterons plus précisément de dégager les leçons que l'on pourra tirer selon l'issue de ce même processus. Alors, s'il était indiscutable que des pays comme l'Égypte, la Jordanie ou même l'Arabie Saoudite plaident en faveur d'un accord de paix, accompagnent ce processus de négociation, d'autres pays, à l'instar de l'Iran ou de la Syrie, et d'autres organisations comme le Hezbollah ou le Hamas, semblent davantage décidés à en contrarier le cours. Et c'est ainsi que, tandis qu'une attaque du Hamas près d'Hébron a ôté la vie à 4 Israéliens à la veille du début des pourparlers à Washington, le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a critiqué ce processus de paix, mettant en cause notamment la légitimité de Mahmoud Abbas pour représenter le peuple palestinien.
Très bien. Alors, avant d'analyser ce processus en lui-même, on peut rappeler un peu la situation géopolitique actuelle dans le Moyen-Orient. Aujourd'hui, on a un fait incontestable qui est l'émergence de l'Iran. Ça se voit à travers l'effort en termes militaires de l'Iran. On pense évidemment à son programme nucléaire, mais aussi à son renforcement d'un point de vue conventionnel, de l'armement conventionnel, mais aussi à travers l'influence qu'exerce l'Iran sur différents acteurs de la région. En effet, l'Iran exerce une influence sur des pays, et on pense évidemment à la Syrie, mais aussi et surtout, l'Iran exerce son influence à travers diverses organisations et divers mouvements dans tout le Moyen-Orient. Le premier mouvement proche de l'Iran est le Hezbollah, donc il faut rappeler qu'il a été créé à l'instigation des gardiens de la révolution iranienne et donc qui entretient des relations plus que privilégiées avec Téhéran aujourd'hui. On peut aussi évoquer le cas du Hamas, duquel s'est rapproché l'Iran depuis le début des années 2000, au point d'être aujourd'hui sa principale puissance tutélaire au grand dam de l'Arabie Saoudite. Et enfin, on a quelques exemples en Irak avec divers mouvements que l'on pourrait qualifier de proches de l'Iran. Et on pense au Conseil suprême islamique irakien de Moqtada al-Sadr, dont nombre de responsables trouvèrent refuge en Iran lors de la répression sauvage de Saddam Hussein. Donc voilà un fait incontestable, l'émergence de l'Iran. Et ce fait s'avère problématique pour Israël et donc pour les États-Unis, notamment à cause du programme nucléaire que poursuit Téhéran.
Et alors face à ces deux acteurs qui se situent dans une logique d'opposition, eh bien on trouve un troisième acteur, ou plutôt des acteurs situés inconfortablement en porte-à-faux, obligés de ménager la chèvre et le chou, et ce sont bien évidemment les puissances sunnites. Les puissances sunnites qui voient d'un tout aussi mauvais œil qu'Israël l'émergence d'un Iran à la fois dominateur. Arnaud, tu parlais du Hezbollah. Le Hezbollah fédère en effet peu à peu autour de lui, par-delà les clivages religieux. Tu parlais du Hamas, le Hamas qui a dévié de son orbite originelle saoudienne pour se rapprocher de l'Iran. Enfin, tu parlais de l'Irak. S'il y a bien aujourd'hui une puissance qui profite du chaos irakien, c'est bien l'Iran. Donc un Iran dominateur, disais-je, à travers ses différents vecteurs, mais aussi d'un Iran déstabilisateur. Et l'Arabie saoudite, par exemple, se méfie grandement de l'influence que peut exercer l'Iran sur la communauté chiite, regroupée, rappelons-le, dans la région du Hasa, région où se concentre la majeure partie des gisements pétroliers saoudiens. De la même sorte, la dynastie sunnite des Al-Khalifa à Bahreïn craint grandement l'influence iranienne dans un pays où la part des chiites atteint 70%. Et si ces régimes sunnites se méfient donc de la montée en puissance de l'Iran, ils sont un peu coincés parce qu'ils ne peuvent pour le moment se rapprocher d'Israël, État encore paria et donc toujours infréquentable.
Alors, c'est justement ici qu'intervient ce processus de paix. Un processus de paix qui, s'il aboutit, non seulement affaiblira la légitimité politique de l'Iran et de ses alliés, mais rendra possible l'ouverture d'un dialogue avec Israël. Et donc, on peut se demander à quoi ça peut amener tout ça. Et on peut penser que même si ça n'apporte pas directement un rapprochement avec les puissances sunnites de la part d'Israël, on peut imaginer la constitution d'une coalition contre l'Iran ont bien des points similaires à celles de la première guerre du Golfe, qui se matérialiserait cette fois sous la forme d'un front anti-iranien. Et ce front, qui pourrait jouer dans un premier temps la politique du containment, et qui, si elle échouait, pourrait céder la place à une intervention militaire.
Et à l'inverse, si ce processus échouait, on peut craindre qu'il engluerait la région dans un statu quo et qu'il profiterait in fine à l'Iran et qui, simultanément, marginaliserait un peu plus Israël. Une mise au ban d'Israël qui serait d'autant plus forte, et là je parle sous ton autorité Arnaud, on peut légitimement penser qu'Israël n'acceptera jamais l'existence d'une puissance nucléaire ennemie dans la région et déclenchera, s'il le faut, une intervention militaire. C'est d'ailleurs le cœur de la doctrine Begin, qui avait conduit les Israéliens à bombarder les installations nucléaires irakiennes d'Oziraq en 81 et les installations nucléaires syriennes de Deir ez-Zor en 2007. Alors, voilà peut-être la conclusion que l'on doit tirer, et l'enseignement principal, c'est qu'il existe un enjeu et un intérêt majeur pour Israël, outre la question démographique, à savoir rompre l'isolement qui est le sien et porter un coup sévère, si ce n'est fatal, à son principal ennemi dans la région.
Et bien voilà une courte et approximative perspective des différents scénarios possibles au terme duquel se joue un enjeu clé, l'isolement de l'adversaire. C'est la fin de cette deuxième chronique. On vous remercie tous et à très bientôt. À la semaine prochaine.
À très bientôt. Au revoir.